Bonjour mes amis.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien.
Est-ce que vous avez chaud?
Oui.
Profitez-en parce que l'hiver vient.
C'est pas vrai.
C'est une joie d'être avec vous ce matin. Un privilège de partager la parole de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous? Voilà, on a semé la confusion avec une seule phrase. C'est facile. On a déjà parlé pas mal ce matin de l'Église. En chapitre 2 des Éphésiens, Paul a expliqué comment en Christ, ayant une relation avec Christ, que juifs et non-juifs ont tous été réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation entre juifs et non-juifs a ôté ce qui existait surtout à l'époque, cette animosité, qui était comme un mur qui séparait les deux. Alors, en Christ, tous ceux qui croyaient, juifs, non-juifs, étaient unis et ils sont devenus un. J'ai juste manqué, où est Paul? J'ai juste manqué la référence de ce qu'il a lu ce matin, ayant quelques petites difficultés. C'était quel passage, Paul?
Colossiens 1,
c'est vraiment presque exactement ce que Paul a enseigné en Éphésiens. En Éphésiens chapitre 2, Paul explique comment donc les uns les autres, juifs et non-juifs, avaient accès auprès du Père, que juifs et non-juifs étaient tous concitoyens, la même compagnie, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et comment ensemble ils avaient été édifiés, intégrés, pour former une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est l'Église. En chapitre 3 des Éphésiens, Paul allait prier. C'était ça qui était dans sa tête. Il allait se mettre à genoux devant Dieu et prier pour les chrétiens à Éphèse. Mais comme ça arrive à des prédicateurs de temps en temps, Paul était emporté par ses pensées, et peut-être par le Saint-Esprit aussi. Et à partir de chapitre 3, verset 2 d'Éphésiens, jusqu'à verset 13, il y a une grande parenthèse où Paul change le sujet un tout petit peu. Il n'arrive pas à prier jusqu'au verset 14. Ces prédicateurs sont tous le même, n'est-ce pas? Alors, dans les versets 2 à 13 de chapitre 3, il explique le mystère que Dieu lui avait révélé. Pour l'apôtre Paul, un mystère était une vérité, quelque chose qui était caché auparavant, mais qui avait été révélé par Dieu. Pour les philosophes de l'époque, un mystère, c'était quelque chose qui était caché aux plupart des gens, mais révélé seulement aux initiés. Initié, c'est ça le mot? Fabien, merci beaucoup. Content que tu sois là. Tu peux Alors Paul dit, ce mystère, vérité qui avait été cachée, nous a été révélée. Alors, chapitre 3, Éphésiens, verset 6. Il dit, je vais juste lire quelques versets, ce mystère, c'est que les païens, les non-juifs, sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Chaque mot compte. Il dit verset 7, « Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce que Dieu m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, dit Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je sais, c'est un peu difficile. Moi, j'ai eu le temps de relire maintes fois le passage parce que j'avais l'impression que c'était ça que je devais partager avec vous ce matin. Alors, pour simplifier, Paul dit donc qu'il avait été choisi, qu'il avait été équipé, envoyé par Dieu afin d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs, en premier lieu, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière, d'expliquer clairement le moyen de faire connaître ce mystère. J'arrête pour vous donner un petit moment. Il dit... Il avait été envoyé d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs les richesses incompréhensibles de Christ, l'Évangile, et il dit et de mettre en lumière le moyen de faire connaître ce mystère. Verset 9. Quel est le moyen dont Dieu se sert pour faire connaître le mystère? Qu'en Christ, nous sommes tous un. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est à cause de ça, il dit, verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, c'est par l'Église que Dieu veut montrer, démontrer sa sagesse à toutes les puissances et autorités invisibles dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas une petite chose dont nous sommes en train de parler ce matin. Donc, l'apôtre Paul dit que le but, l'objectif de son ministère, c'était par sa prédication, par son enseignement et par sa prière d'établir des églises, des communautés locales qui, par leur unité, par leur harmonie, démontraient le plan de Dieu pour l'humanité. C'est à cause de ça que nous sommes là. L'Église. Paul avait en horreur ceux qui voulaient diviser l'Église, qui voulaient créer des problèmes dans l'Église. Parce que l'Église est là pour montrer, démontrer quel est le plan de Dieu d'unifier toutes choses en Christ. Christ est le moyen d'unir, mais l'Église, c'est le l'image visible de ce que Dieu veut faire. Alors, quand une église se divise, alors tout est perdu. Alors, Paul écrit aux Romains, « Méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Éloignez-vous d'eux. » Il dit aux Corinthiens, « Je vous exhorte à tenir tous un même langage, à ne pas avoir des divisions parmi vous. » Parce que quand les chrétiens se divisent, le message de l'Église est perdu. et la raison d'être de l'Église en grande partie est perdue. Paul écrit aux Galates, les œuvres de la chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'œuvre de la chair, rivalité. Il parle aux chrétiens, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, ça. Alors Paul a honoré ceux qui aimeraient diviser l'Église parce que l'Église est là pour démontrer la sagesse de Dieu en unissant toutes choses, hommes, femmes, toutes les nationalités, juifs, non-juifs, en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu aime confier aux êtres humains des missions qu'ils sont incapables d'accomplir, humainement parlant. Alors, Paul, est-ce que vous avez remarqué, Paul dit qu'il était là pour transmettre, pour faire connaître les richesses incompréhensibles de Dieu. C'est pas une petite tâche, ça. Dieu aime confier aux êtres humains des missions qu'ils sont incapables à faire par leur propre force. Paul savait qu'il ne pouvait pas le faire. Vous savez, Dieu m'a accordé le privilège de le servir. Il m'a appelé. Vous ne me connaissez pas avant. Alors, je suis la dernière personne que vous aurez choisie. Honnêtement, Paul dit qu'il est le plus petit de tous les saints. Je ne veux pas contredire Paul, mais il ne me connaissait pas non plus. Comme Paul, j'avais besoin de l'efficacité de sa puissance pour accomplir la tâche. Mais le Seigneur savait que j'avais besoin d'une autre chose. Elle s'appelle Anne. Sans Anne, ça aurait été impossible. Honnêtement, je ne plaisante pas. Il y a des années, dans l'église, il y a longtemps, un petit groupe d'enfants qui voulaient jouer à l'église. Je pense que Lionel en faisait partie, peut-être pas. Déborah, je suis sûr, elle est là, Déborah? Non. Alors, il jouait à l'église. Alors, j'ai oublié les détails, mais un des enfants voulait jouer la guitare, parce qu'à l'époque, je faisais tout. Quel bonheur. Il y avait un autre enfant qui disait, moi, je vais être celui qui prend l'offrande. Et un autre enfant qui dit, moi, je vais être celui qui prêche. Alors, Déborah a dit, et moi, qu'est-ce que moi je... Ils ont dit, toi, tu peux être Anne. Alors, Déborah a dit, je ne veux pas être Anne. Elle ne fait rien. C'est faux. Anne ne faisait rien ici. Tout ce qu'elle faisait, c'était caché. Mais le Seigneur le savait. Mes amis, si j'ai pu être utile pour le Seigneur, c'est grâce à l'efficacité de sa puissance, comme l'apôtre Paul, mais aussi parce que Dieu m'a accordé une femme qui était prête à tous. J'ai les larmes aux yeux maintenant. Prête à tout sacrifier pour l'œuvre de Dieu et pour aider son mari. C'est pas. Je n'ai jamais fait ceci. On va l'applaudir. Le chant. gens de notre service, c'était l'Église. D'abord en Angleterre, on n'est pas des grands évangélistes, nous. On ne fait pas des campagnes. Le champ de notre service, c'est l'Église. Les gens, c'est là où nous sommes à l'aise, parce que c'est le ministère que le Seigneur nous a donné. Angleterre, puis à Athus. En Belgique, c'est là qu'on a connu Caroline. Elle nous a aidés avec le français. Alors si je fais des fautes, c'est la faute de... Elle a fait son mieux avec ce qu'elle avait. As-tu pris Luxembourgville? Elle était là 27 ans. 27 ans. Lubumbashi, là où il fait beau le soleil. Elle est revenue Esch-sur-Alzette. Toujours l'Église. L'Église. Je pense avoir dit ceci avant, mais vous savez, l'Église n'est pas un bâtiment. Je pense que j'ai dit ça avant. Oui, oui, oui. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est des gens. Des gens qui ont entendu et qui ont cru la bonne nouvelle. Les gens qui ont confessé leurs péchés. Les gens qui se sont repentis. Les gens qui ont placé toute leur confiance en Christ. Les gens qui ont été nés de nouveau et qui sont devenus participants de la nature divine, disait Pierre. On ne peut pas être le même et continuer à vivre comme avant, ayant passé par toutes ces expériences. L'Église est une assemblée, une compagnie de gens, hommes, femmes, de toutes nationalités, qui ont été transformés par la puissance de Dieu et qui sont devenus un en Christ. Et c'est cette Église qui montrait aux puissances dans les lieux célestes et aux hommes et femmes qui nous entourent, ouais, la gloire de Dieu en tout ce qu'il nous a fait. Donc, là, je répète, la mission de l'Église locale, c'est de rendre visible, témoigner, faire connaître, démontrer aux anges et aux hommes la sagesse infiniment variée de Dieu par l'unité qui existe dans l'Église, par l'amour qui est visible parmi les membres de l'Église. Pierre, parlant de l'Évangile, a dit dans son épître que les anges désiraient plonger leur regard dans ce que Dieu était en train de faire. Je sais pas, mais moi je pense que parfois les anges sont étonnés par ce que les êtres humains font. Quand les femmes sont allées au tombeau pour chercher le corps de Jésus, des anges ont dit à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il me semble que les anges sont un peu étonnés. « Vous êtes venus, il a dit. » Quand Marie de Magdala est allée au tombeau, des anges lui ont dit, « Mais pourquoi pleures-tu ?» Quand les disciples étaient autour de Jésus, quand il est monté au ciel, ils sont restés là. « Qu'est-ce qui se passe ?» Et les anges sont apparus et disent, « Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Il y a des choses à faire, au boulot. Il me semble que parfois les anges sont étonnés par ce que Dieu fait dans l'Église, pour ce que Dieu a fait pour l'Église et ce que Dieu veut faire par l'Église. Il me semble que les anges étaient étonnés par le prix qu'il a payé pour l'Église. Dieu a voulu régler le problème de nos péchés sans compromettre sa sainteté. Dieu ne peut pas dire, ça va, tu as fait ceci, tu as fait cela, ok, tu n'as pas respecté ce que je veux, mais ce n'est rien. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas compromettre sa sainteté, mais il ne voulait pas trahir non plus son amour. Parce qu'il nous aime, il aime l'humanité qu'il a créée. Alors Pierre a dit, vous le savez en effet, ce n'est pas pour des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. J'imagine, ou j'essaie d'imaginer, la réaction des anges quand ils observent ce qui se passe. Quand Dieu a créé Adam et Ève, dans la condition parfaite, ça ne pourrait pas être meilleur. Et il choisit à désobéir. Qu'est-ce que les anges ont pensé? Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient tous capables de mensonge, de tromperie, d'égoïsme. Alors les gens disent, pourquoi eux? Le peuple d'Israël. Aïe, 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 aïe. Les rois d'Israël. David. Salomon, les disciples, moi, vous. Ouais. À mon avis, parfois, les anges sont tentés à dire, peut-être à eux-mêmes, ils n'en valent pas la peine pour nous racheter. Il a donné son fils qui est mort pour nous à la croix de Calvaire. C'est la sagesse insondable de Dieu. Il me semble que parfois les anges sont étonnés par l'objectif qu'il a pour l'Église. C'est comme nous avons dit ce matin. Parlons de l'Église à Corinthe. Paul a donné une liste de péchés qui nous étonnent. Je ne vais pas dire tout parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas mentionner. Il a parlé des gens immoraux, des adorateurs d'idoles, les adultères, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs, les malhonnêtes. Et Paul dit, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Formidable. La réalité est que les chrétiens viennent de toutes sortes d'arrière-plans. Alors, il me semble que parfois les anges se disent, est-ce vraiment possible de faire une église qui glorifie Dieu avec de tels gens? Il me semble que parfois les anges sont étonnés par les moyens qu'il a choisis pour construire l'Église. En Éphésiens chapitre 4, nous voyons que le Seigneur a donné à l'Église principalement des hommes et des femmes, les hommes, les êtres humains qui sont doués, équipés, pour aider, pour construire les églises. Il parle des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, des êtres humains, des œuvres inachevées, qui ne sont pas encore parfaits. Est-ce que vous avez encore jamais rencontré un pasteur parfait? Celui-là. Je ne suis pas parfait. Et Anne le sait mieux que vous. Mais le tâche, Éphésiens chapitre 4, verset 12, le perfectionnement des croyants. À mon avis, parfois les anges sont étonnés. Comment ceux qui ne sont pas parfaits peuvent peuvent-ils perfectionner les autres? Comment ceux qui n'ont pas atteint la maturité peuvent-ils amener les autres à la maturité? Comment ceux qui parfois se conduisent comme des enfants peuvent-ils, et vous aussi, ne riez pas trop, comment peuvent-ils amener les autres, comme dit la Bible, à l'état d'adulte? Il fait chaud ici ce matin. Comment ceux qui ont une connaissance limitée peuvent-ils amener les autres à la connaissance du Fils de Dieu, comme dit Éphésiens chapitre 4. Dieu aime confier aux êtres humains des tâches qui, par eux-mêmes, sont impossibles d'accomplir. Je pense que les anges seraient d'accord avec l'apôtre Paul quand il a écrit aux Corinthiens « Considérez, frères, parmi vous, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi des choses folles. » C'est pas très flattant. Hein? Dieu a choisi des choses faibles. Dieu a choisi des choses viles. Quel mot. J'ai regardé ce mot dans le dictionnaire. J'ai toujours un dictionnaire. C'est un peu usé, mais... Vile. Connaissez la définition, c'est incroyable. Ce qui suscite le plus grand mépris. Wow. Alors, ne soyez pas étonnés si dans l'Église, vous voyez de temps en temps les gens qui ne sont pas parfaits. Les pasteurs qui ne sont pas encore arrivés comme il faut. Dieu a choisi des gens du monde, celles qui sont méprisées, celles qui ne sont point. Si on est honnête, les églises ne sont pas toujours un modèle de la paix, comme dit le chant. Si on est honnête, les pasteurs ne sont pas toujours unis dans leurs efforts, comme dit le chant. L'amour de Dieu ou l'amour de Christ n'est pas toujours la preuve, comme nous sommes disciples du Seigneur. Et pourtant, malgré tout ça, Jésus a dit, « Je te déclare, je bâtirai mon Église. » et contre lequel la mort elle-même ne pourra rien. Malgré tout ce que nous venons de dire, malgré tout ce que les anges pourraient penser, l'Église triomphera, marchera.
Amen.
Si Dieu a choisi les choses folles du monde, si Dieu a choisi celles qu'on méprise, si Dieu a choisi celles qui ne sont point, c'est pour les transformer, c'est pour les équiper, les purifier, afin de pouvoir confondre les sages, les forts, réduire à néant celles qui sont. Que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est le plan de Dieu, pas l'Église, de montrer sa gloire, la sagesse. Je suis tenté à dire incompréhensible parfois de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, pleinement visible dans l'Église. Que devons-nous donc faire pour que les Églises, pour que cette Église accomplisse pleinement sa mission de glorifier Dieu? Je dirais, sachant qu'il y a des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau si on leur donne l'occasion. À mon avis, la première chose, qu'il faut prêcher la parole dans l'Église. Il faut enseigner la vérité, prêcher la parole dans l'Église, première chose. Il faut vérifier que tout ce que nous disons est juste. Est-ce que je peux dire quelque chose en toute humilité? La parabole que Jésus a donnée, il parle du monde, pas de l'Église. Il n'y a pas d'ivraie dans l'Église. Je suis désolé, mais c'est important de le dire. L'Église, Jésus a dit, les disciples ont dit, « Seigneur, que veut dire cette parabole ?» Verset 38. Il dit, « Ah, le champ, c'est le monde. » C'est pas l'Église. C'est sûr, le principe de ce que vous avez dit est juste. Dans mon cœur, il y a des choses dans mon cœur que je dois confesser. Mais c'est important de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Enseigner la vérité. C'est la vérité qui nous libère, qui donne cette liberté. Vous m'aimez toujours? Ils disent oui, mais un peu moins. C'est important de soigner, d'encourager, d'aimer, de protéger, d'avertir, de corriger les croyants. Waouh! C'est une autre chose. On est allé voir un jeune homme cette semaine. Il m'a dit, John, tu m'as grondé. C'est horrible. Je n'aime pas le faire. John, tu m'as grondé. Mais le voir maintenant, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné le courage. Merci de m'avoir donné le courage de le voir maintenant en train de servir Dieu. 50 ans, absolument 100% pour Dieu. Il faut le faire, c'est horrible. Quand on devient vieux, ou plus âgé, on a le don de se rappeler de toutes les bêtises qu'on a faites vers 3h, 4h le matin. Le moindre de tous les saints. Mais Dieu agit. Ce sont des choses importantes. Soigner, encourager, aimer, protéger, avertir, corriger les croyants. C'est comme ça que nous devons avancer. Et la dernière chose que nous devons faire, c'est de faire comme Paul, prier pour l'Église. J'aimerais juste terminer en citant, en priant pour vous, la prière que Paul a finalement pu écrire, prier, quand il est arrivé au verset 14. Alors, souvenez-vous du contexte. Paul dit, Dieu m'a révélé cette vérité. Nous sommes tous un en Christ. Paul a dit, la manière, le moyen par laquelle Dieu montre cette vérité, c'est l'Église. Il dit, c'est pas l'Église, même les anges, les puissances dans les cieux, connaissent la sagesse de Dieu. Alors il prie pour l'Église. Il dit, Éphésiens 3, 14, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. » C'est ce dont nous avons besoin. Dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est ça qui transforme. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce possible d'être rempli de toute la plénitude de Dieu? Écoutez comment Paul termine sa prière. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen.